Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Desmentis, vous écoutez le Club Desmentis, je suis avec Maps. Bonjour Maps.
Bonsoir, mon cher Sylvain.
On commence, ça c'est une tradition, on commence toujours de la même façon, je dis bonjour Maps, tu dis bonsoir, je dis ben oui c'est vrai, c'est le soir.
On est soir.
Là j'ai fait ça la dernière fois, puis j'ai écouté un autre épisode qu'on avait fait avant, puis on avait commencé exactement de la même façon. On fait toujours ça.
Des bonnes petites habitudes.
C'est nos petites habitudes. Puis là, on est ensemble aujourd'hui pour continuer cette side quest qu'on s'était donné, c'est-à-dire de lire tous les lauréats du prix des libraires du Québec.
Mm-hmm.
Et là, on est rendu à 1996, donc L'ingratitude de Yin Chen.
Mm-hmm.
Et on va parler donc de ce livre-là.
Oui.
Comme toujours, je vous rappelle que c'est un club de lecture, donc on va parler en long et en large de ce qu'il y a dans ce livre-là. Et donc, c'est ça, on est rendu là dans notre parcours. L'ingratitude, ça raconte l'histoire, ça se passe en Chine, ça raconte l'histoire d'une jeune fille, une très 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 jeune femme qui se suicide. Je vous ai averti qu'il y avait des divulgâcheurs, mais ça, c'en est pas un. Là, ça se passe vraiment dès le début. On comprend que la jeune femme est décédée. Et donc, ça, on va revenir en arrière et on va vraiment analyser ce qui l'a mené au suicide, mais particulièrement sa relation avec sa mère. Et je trouvais ça bien drôle parce que la dernière fois qu'on avait un live pour ce projet-là, c'était pour L'Ange cornu avec les ailes de tôle. Puis je disais, mais il me semble que la mère de Michel Tremblay est méchante. Oh, que j'avais tort comparé à celle-ci!
Rien à voir!
Rien à voir! Puis là, je me suis dit, OK, il y a comme un lien à faire là, avec les prix du libraire. Il me semble qu'il y a toujours une mère un peu pas présente ou pas très souhaitable, on va dire.
Mm-hmm.
Il y a toujours ce thème-là, on dirait, en tout cas pour les trois premiers. Alors, ben, c'est un peu de ça que ça parle, l'ingratitude. Qu'est-ce que tu as pensé de ce livre-là, Maps?
J'ai vraiment beaucoup de difficultés, je pense, à parler de ce livre-là, dans le sens que j'ai trouvé que ça se lisait relativement facilement. J'ai trouvé que c'était des sujets intéressants, aussi dans un contexte culturel différent du nôtre, dans le sens que, oui, tu sais, il y a la mère, puis ses particularités, mais il y a aussi, tu sais, un petit peu de ce que je comprends, il y a quand même des traditions, il y a la place de la femme au travers de tout ça, donc, tu sais, il y a des choses qui sont vraiment difficiles à lire, leur relation est vraiment particulière. C'est vraiment comme un ouvrage que j'ai apprécié lire, mais j'ai vraiment peu de mots pour comme le décrire et décrire, je pense, mon expérience de ce roman-là. Et toi?
Mm-hmm. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. C'est des très petits chapitres, très incisifs. La dernière fois qu'on s'est parlé, quand on a présenté ce livre-là, c'est toi qui m'as appris, Matt, parce que c'était un des coups de cœur de Fanny Demel. Moi, je trouvais ça très drôle parce qu'en le lisant, je trouve qu'elle écrit un peu comme ça, Fanny Demel. il y a un peu. J'ai retrouvé un peu de. Ben, en fait, ce livre-là a été publié plusieurs années avant qu'on connaisse Fanny Demel. Mais c'est ça, je comprends pourquoi elle aime ce livre-là parce que ça s'inscrit pas mal dans un peu dans le même genre de ce qu'elle fait. C'est ça, moi j'ai beaucoup aimé le fait que, même si je ne savais pas que ça se passait en Chine, même si je ne l'avais pas su que ça se passait en Chine, même si je n'avais pas vu le nom de l'autrice, j'aurais su que ça se passait ailleurs ou j'aurais compris que c'est une autrice qui vient d'ailleurs parce qu'il y a vraiment un style particulier. Même si je viens de le comparer à Fanny Demel, il y a vraiment un style particulier dans l'écriture. Là. Oui, il y a des références, puis il y a la culture chinoise qui vient interférer là-dedans énormément, mais même dans l'écriture, je trouvais qu'il y avait quelque chose de dépaysant, tu sais. Puis, il y a des coutumes, il y a des choses, en fait, la mère, elle va devenir vraiment très présente, puis elle va vraiment vouloir contrôler la vie de sa fille. Ouais. Et il y a une phrase que j'ai soulignée. Ben, j'aurais pu en souligner plusieurs, là, mais il y en a une en particulier, c'est « Si je t'avais connue avant ta naissance, me disait-elle, je me serais fait avorter. »
Yikes!
Enfin, on comprend que c'est une femme qui n'en voulait pas d'enfant, ou en tout cas, on comprend qu'elle n'aime pas sa fille.
Ouais.
C'est la réalité de grandir avec un parent qui ne t'aime pas.
Mm-hmm.
Oh,
mais il y avait beaucoup de ces réflexions à la mère par rapport à l'éducation, par rapport à l'autorité, à l'adulte, puis par rapport à sa fille. Puis tu sais, même il y a un bout là où que sa fille va vraiment la décevoir. Puis ce qu'elle lui dit, c'est comme « Ah, oh, mais tu sais, je pensais que tu t'en allais dans le bon chemin. Puis tu sais, j'étais comme... j'étais presque fière de toi. Tu sais, puis là, tu fais ça. Puis tu es comme « Ah, oh, mais tu sais, c'est... » C'est vrai, elle est vraiment rough, cette madame-là. Là. Au niveau santé mentale, ça va pas fort. Là.
Non. Non, mais quand elle dit ça, on comprend que c'est une manipulation. Là. Elle n'aurait jamais, jamais été fière de sa fille, quoi qu'elle fasse. Là.
C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment difficile à lire, je trouve, comme ouvrage pour ces raisons-là, mais pas au niveau de l'écriture, pis ça, comme tu disais. Puis, je m'en allais quelque part, là. Puis je l'ai complètement oublié. Mais j'ai apprécié cette lecture-là. Oui, c'est ça. Ce que j'aurais aimé, je pense, plus comprendre. Puis, tu sais, vu que c'est basé en Chine, on dirait que je connais pas beaucoup les traditions, les coutumes, puis tout ça. Puis j'avais l'impression qu'il y avait peut-être des choses qui faisaient plus partie de ça que de leur relation. Puis j'aurais aimé être plus experte pour avoir comme la différence entre les deux. Tu sais, si quelque chose comme ça avait été écrit au Québec, j'aurais pu comprendre comme « Ah, ça, ouais, ça fait partie de l'époque. Ça, tu sais, ça, c'est juste parce que c'est la mère qui est comme ça. » Mais on dirait que là, j'avais un désir d'en savoir plus parce que, tu sais, je pense pas que toutes les relations mère-fille en Chine sont comme ça, mais il y a définitivement, par rapport au statut de la femme, par rapport à, tu sais, c'est... la femme vaut pas grand-chose, il faut qu'elle se marie avec un bon parti, puis tout ça, il y a quand même tous ces aspects-là qui font partie du discours qui était hors de leur relation à elle, précisément. Fait que moi, c'est comme une des petites choses que j'étais comme, oh, j'aurais pris plus de contexte pour comme mieux comprendre à quel point leur relation est grave et toxique, tu sais.
Je comprends. Puis en plus, on sait, tu sais, de l'extérieur que, bon, en plus, c'est une fille qui l'a eu, tu sais, c'est pas un gars. Puis on sait qu'il y a la pression d'avoir des gars, tout ça. Mais moi, je trouvais ça intéressant de, justement, pas avoir tant de contexte que ça, parce que ça fait que ce petit roman-là, qui est vraiment très intime, c'est comme une bulle. Puis la réalité, nous, personnes blanches d'Amérique du Nord, qui ne connaissons pas nécessairement les coutumes chinoises des années 90, ça fait en sorte qu'on ne sait pas c'est quoi.
Mm-hmm.
C'est peut-être juste une petite bulle malsaine dans cette famille-là, ou c'est peut-être, tu sais, il y a peut-être la pression de toute la société sur les épaules de la mère, et donc qu'elle applique ça elle fait retomber ça sur les épaules de sa fille, mais on ne le sait pas. Fait que, tu sais, je trouvais ça intéressant parce que, ultimement, la seule chose qu'on a, c'est le point de vue de la fille, puis c'est elle, qu'est-ce qu'elle vit, puis elle est tellement extraite de la société qu'elle non plus, elle ne le voit pas, elle ne le voit pas, la pression que sa mère peut avoir, elle ne la voit pas, la société autour d'elle. Elle est vraiment dans son petit cocon, tu sais. Fait qu'elle en sait peut-être pas plus que nous, en fait.
C'est vrai. Il n'y a pas nécessairement d'autres comparaisons avec d'autres relations mère-fille, de ses amis, tout ça. Tu sais, comme je suis en train de réfléchir pendant que tu parles, que comme elle parle beaucoup de sa relation puis de son histoire à elle, mais il n'y a pas de, tu sais, ah, oh, mon ami puis sa mère, c'était comme ça, ou tu sais, comme c'est très différent ailleurs. On est vraiment juste dans sa normalité à elle, qui nous semble vraiment très peu normale et saine et ordinaire.
Ouais.
Mais ça pourrait être les deux, tu sais, ça pourrait être une réalité unique à ces deux femmes-là ou quelque chose de très ordinaire pour tout le monde, puis on n'en a aucune idée. Fait que là, t'aimes le flou, hein? Moi, j'aime avoir des réponses.
Ça dépend. Dans Rue du Plessis, je voulais des réponses. Mais là, ça, c'est un flou qui me dérangeait pas trop. J'étais comme, ah, c'est comme, je sais pas, c'est parce que, tu sais, ça m'arrive de lire des livres ou de regarder des films, mettons, de science-fiction où il y a une petite bulle, justement, ça se passe dans un petit truc, puis on ne sait pas c'est quoi le monde qu'il y a autour. Ça me faisait peut-être un peu penser, pas que la Chine est de la science-fiction, là, elle existe, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, on a comme juste un petit aperçu de l'univers. Fait que, tu sais, on ne sait pas si le reste de l'univers ressemble à cette bulle-là ou si c'est vraiment une exception, tu sais.
Oui, je comprends.
Mais c'est un flou que... Puis tu sais, limite, c'est un flou sur lequel on pourrait investiguer à l'extérieur du livre, tu sais. Mais c'est ça, on est tellement dans la tête de cette fille-là, puis on est dans la tête de cette fille-là... Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé aussi parce que, comme je l'ai dit au début du livre, elle est morte. Elle revient en arrière puis elle nous raconte son histoire. Mais cette espèce de relation à la mort qui est très... je ne sais pas comment le dire, là, mais cette vision plutôt, pas la relation à la mort, mais cette vision qui est vraiment comme elle est, un esprit, elle observe sa mère, sa grand-mère qui dit « j'aurais préféré partir à sa place ». Puis, oh mon Dieu, il y avait quelque chose, puis qu'elle soit témoin de ça, tu sais, il y avait quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup.
J'ai beaucoup aimé aussi la boucle. De la fin, là, dans le sens que, comme tu sais, on reprend où est-ce qu'on était au début, puis, tu sais, bon, divulgateur, on l'a déjà dit, mais tu sais, comme, elle commence un petit peu perdre le fil, puis à plus trop souvenir les jours, les années, puis à... Fait que, tu sais, on dirait que c'est comme l'âme qui s'en va à la fin, tu sais, comme l'âme reste un petit peu au-dessus du corps pour voir les derniers instants, puis ça prend plus de temps à l'âme à partir. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Mais c'est vrai qu'elle a une drôle de relation tout au long. Bien, tout est assez particulier, mais tu sais, comme sa relation avec ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire pour s'affranchir de sa mère. Puis ce qui m'a beaucoup choquée aussi, c'est sa mère sur sa tombe qui est comme, ben tu pensais comme réussir puis me faire de la peine, mais en tout cas, tu sauras que t'as pas réussi, puis ce que t'as fait, c'est, tu sais, tu peux pas retourner en arrière, fait que c'est moi qui ai gagné, puis alors que comme la fille faisait justement ça pour comme avoir le pouvoir, puis pour une fois décider, donc il y a comme tout le temps cette confrontation-là, cette confrontation aussi de comme j'aime ma mère, mais ben elle dit pas qu'elle la déteste, mais tu sais comme ça la blesse énormément, mais elle continue à l'aimer malgré tout, mais elle reçoit pas l'amour qu'elle aimerait recevoir. Fait que là, qu'est-ce qu'elle fait pour ça? C'est quoi ses options?
C'est... Moi, je la sentais piégée, là.
Ben
je la sentais piégée dans cette relation-là. Tu sais, puis tu dis, ah, oh, elle l'aime, mais elle dit pas qu'elle la déteste. Elle dit pas qu'elle la déteste, mais j'ai pas le sentiment qu'elle l'aime beaucoup non plus. Tu sais, comme, je veux dire, elle a des émotions envers elle, là, mais tu sais, j'ai du mal à... J'ai du mal à appeler ça de l'amour.
Ouais. Mais tu sais, c'est comme cette étrange relation entre un parent puis un enfant. Lorsque l'enfant sait que comme le parent l'aime pas, mais que c'est quand même ton parent, tu sais, il y a comme... C'est pas de l'amour, mais c'est comme un sentiment de devoir l'aimer quand même, parce que dans la société, nos parents, c'est puis elle n'a pas d'autres personnes non plus. Fait qu'il y a comme cette ambiguïté-là, puis cette confusion dans, comme, je sais qu'elle m'aime foncièrement pas, mais en même temps, est-ce que j'espère qu'elle m'aime, mais qu'elle me le dit pas, puis comme moi, je dis que je l'aime pas, mais dans le fond, tout ce que j'attends, c'est qu'elle m'aime, tu sais. Dans sa lettre aussi, à la fin, c'est un peu ça, là. De comme, je t'aime, tu sais, même si toi, je pense que t'es pas capable de me le dire, tu sais, c'est pas parce qu'elle pense qu'elle l'aime pas, je pense. Ah, oh, c'est flou, là, c'est...
Oui, c'est beaucoup d'émotions, puis c'est vraiment appuyé par une écriture que j'ai trouvée comme vraiment fine, tu sais, j'ai vraiment trouvé que ça relevait là, toutes les émotions que ces personnages-là ont vécues. Je vais dire bonjour à Wave631, qui nous dit bonsoir et qui nous dit « Est-ce que vous diriez que le sujet du suicide est traité avec finesse et doigté? » C'est parce que c'est un... J'ai envie de dire oui, mais comment je pourrais dire? C'est pas un suicide.
Typique.
Ouais, tu sais, c'est pas mené par, mettons, la dépression. Ou, tu sais, comme ce qu'on voit généralement dans les suicides, là, ou la détresse, ou, tu sais, c'est pas mené par ces émotions-là, c'est vraiment mené par... Oui, il y a une certaine détresse, là, c'est sûr, mais c'est mené par des sentiments qui sont différents de ce qu'on peut voir normalement dans un récit qui parle de suicide, tu sais.
Oui, je suis d'accord avec toi.
C'est surtout de la vengeance. C'est beaucoup de vengeance. C'est beaucoup de vengeance par rapport à la mère. C'est pas que ça, mais c'est un aspect important de son acte.
Oui, c'est comme une prise de pouvoir, une prise de contrôle, puis de décider de ce qui va se passer dans leur relation. Tu sais, je le vois pas comme un acte désespéré nécessairement, puis la manière qu'elle le traite. Tu sais, c'est fou parce que c'est quand même des sujets très lourds tout au long de cet ouvrage-là, mais il n'y a pas de grande lourdeur dans l'écriture, tu sais. Mm-hmm. C'est pas nécessairement écrit avec légèreté, puis ta-ta-ti, ta-ta-ta, mais c'est pas comme foncièrement déprimant. On n'est pas non plus dans le descriptif. On est vraiment dans les actions. Donc ça aide, je pense, à ce que ça soit pas trop lourd, puis ça va quand même assez rapidement dans les événements. T'sais, moi aussi, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense pas que c'est un portrait typique là, avec des gros guillemets du suicide. Fait que c'est difficile de dire, compte tenu que c'est pas nécessairement comme le suicide est comme une porte de sortie pour cette petite fille-là.
Bien, j'aime ce que tu as dit quand tu parlais de prise de pouvoir parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est comme pour une seule fois dans sa vie, elle va être en contrôle de ce qu'elle fait, puis c'est ça l'action qu'elle décide de poser.
Ouais.
C'est ça.
Parce puis que en la même fin, temps... tu sais, avec toute la prise de sa sexualité aussi, tu sais, ça aussi, c'est comme, ben, tu sais, si je m'en vais vers le suicide, je veux m'assurer d'avoir eu du plaisir, d'avoir découvert la chair, tu sais, il y a comme tous ces moments-là de comme, je vais pas partir n'importe comment, je vais partir en décidant comment je pars, tu sais.
Mm-hmm.
J'ai l'impression que c'était plus...
Ouais, mais en même temps, c'est vrai, mais en même temps, puis le pire, c'est... Ben, c'est vrai, ça, c'est vraiment un spoiler, mais en même temps, le pire, c'est que quand elle finit par partir, c'est pas comme... c'est pas comme elle l'avait envisagé, tu sais.
Ouais, ça m'a pris beaucoup trop de temps à comprendre ça, en plus.
Ah ouais.
J'aurais dû le voir venir avant. Je suis tellement une lecture.
Ah, moi non plus. Moi non plus, ça, par exemple, j'ai pas vu venir. Là. C'est quand c'est arrivé que j'ai compris que c'est ça qui se passait.
Ouais.
Mais en fait, j'ai juste ça me fait réfléchir, puis j'ai juste envie de... C'est parce que ça me rappelle... La façon dont elle parle du suicide, ça me rappelle... le même pays, là, mais tu sais, au Japon, il y a toute une espèce de culture du suicide qui est vraiment comme par rapport à la honte, par rapport à ce qu'on n'est pas... c'est pas nécessairement une détresse psychologique ou une dépression, c'est la honte qui vient vraiment nous peser sur les épaules. Tu sais, il y a la fameuse forêt du suicide, là, où les gens, comme, OK, ils sont honteux, ils se retirent de leur famille, puis ils s'en vont là pour s'enlever la vie. Puis c'est ça, fait que tout ça, ça me fait réaliser que c'est ça, c'est une vision très différente du suicide que nous, on a, tu sais. C'est vraiment comme, c'est ça, c'est vraiment une culture différente. Fait puis je connais pas, tu sais, je parle de choses que je connais pas, là, je la connais pas, la culture chinoise, je sais pas si c'est une vision, encore une fois, globale ou si c'est vraiment comme ce personnage-là qui a vécu cette chose-là, mais ça me fait penser, effectivement, qu'on a une vision très différente du suicide en Amérique du Nord, là.
Mm-hmm. D'ailleurs, lorsque tu mentionnais ça, tu sais que ça, c'est une petite bulle, puis on n'a pas nécessairement les informations historiques, culturelles autour. Comme c'est vraiment dommage que tous les deux nous soyons ce genre de personnes, parce que il y a plein de gens qui, tu sais, dans une œuvre comme ça leur donnerait envie d'aller lire sur le pays, d'aller lire sur, puis d'utiliser ça comme tremplin pour s'instruire. Puis je suis comme, moi, je suis ben trop paresseuse, si c'est pas dans mon livre, je ne le ferai pas par moi-même. Mais dans ces moments-là, parfois, je trouve ça, je m'auto-déçois.
Ben, ouais, je sais pas, moi, j'étais vraiment satisfait par les informations que j'avais. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations là, qu'on pourrait aller chercher pour compléter notre expérience. Mais je trouve quand même, de mon point de vue à moi, je trouve quand même que le roman se tient en lui-même. Mm-hmm. J'ai les informations à l'intérieur de ce livre-là qui me sont nécessaires pour comprendre cet univers-là. T'sais.
Oui.
Fait que c'est ça. Mais pour vrai, là, moi, ça a été... Même si c'est un sujet dur, ça a quand même été une belle lecture pour moi. Là, ça a été... Tu sais, j'avais mon ancienne gérante à la librairie. Elle lisait les Amélie Nothomb, à chaque année. Puis elle disait tout le temps, Amélie Nothomb, c'est ma petite bulle de champagne. Tu sais, c'est sa petite joie là, dans l'année. Puis même si c'est un sujet dur, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Là. Moi, c'était une belle petite lecture, douce. Malgré le sujet quand même grave, j'entrais puis je me laissais bercer par son histoire là, puis j'ai vraiment vraiment apprécié ce petit livre là. Je pense que c'est mon préféré de notre side quest jusqu'à date.
Ouais. Attends, avant L'Ange Cornu.
Ben L'Ange Cornu est excellent là, je lui enlève rien, mais j'ai lu ça, là. Je sais pas, c'est difficile de classer les deux, mais pour vrai, j'ai tellement eu de plaisir à lire ça. Encore une fois, je me trouve bizarre de dire ça parce que c'est pas une histoire joyeuse, là, mais c'était beau, là. Je passais d'un chapitre, les chapitres sont tout petits, je défilais ça. Puis, tu sais, le pire, c'est que je l'avais commencé un peu avant toi, tu sais, puis je me suis dit, je vais y aller, je vais lire ça tranquillement, mais j'ai lu ça tellement vite, là. J'étais tellement content d'être avec elle. Je me suis attaché à ce personnage-là. Je comprenais, c'est vraiment pas, j'ai vraiment pas vécu sa situation. J'ai vraiment pas, j'ai eu une relation difficile avec un de mes parents, mais ça ressemblait absolument à rien à cette histoire-là. Mais pareil, je me suis attaché à ce personnage-là. Je voulais que du bien lui arrive, même si je savais où est-ce que ça s'en allait. Je voulais que du bien lui arrive, je voulais qu'elle soit heureuse, je voulais qu'elle s'affranchisse de sa mère, même si c'est pas ça qu'elle cherchait à faire. Elle cherchait toujours à la faire réagir. En fait, tout ce qu'elle fait pendant le livre, c'est par rapport à sa mère, tu sais.
Ouais.
Fait que moi, j'avais vraiment envie qu'elle s'épanouisse, qu'elle sorte de ce cocon-là, qu'elle aille vivre des choses, tu sais, mais c'est ça. Bref, même en sachant que ça n'arriverait pas. C'est ça.
Mais tu l'as peut-être plus apprécié que moi. Là. Je ne serais pas prête à dire que c'était ma petite bulle de champagne.
Non.
Puis que c'était... Non, pour moi, L'Ange Cornu reste, reste en premier. Mais tu sais, comme on a dit, ça se lit vraiment très bien pour le sujet. Puis les petits chapitres et tout ça, c'est pas très gros non plus. Moi, j'ai un petit format carré comme ça. Là, ça se défile assez vite. Là. Lorsque tu me dis que tu l'as fini, là, je suis comme, OK, j'ai embarqué là-dedans. Puis... à une journée, c'était terminé, là. Donc, puis ça, c'est quand même bien compte tenu du sujet et tout ça. Mais je peux pas dire que je me complaisais dans la douleur et dans et dans cette relation particulière puis ces émotions que ça faisait ressentir. J'étais à plusieurs moments, j'étais vraiment outrée de ce que la mère a dit. J'étais comme, qu'est-ce que tu racontes là? Puis Je sais pas nécessairement de comprendre la protagoniste. Ça, c'était comme ça allait de soi ce qu'elle faisait puis pourquoi elle le faisait. Mais ça n'empêche pas que je trouvais ça vraiment difficile. Je pense tout ce qu'elle recevait comme message, comme puis d'essayer de comprendre pourquoi elle s'en allait vers ces chemins-là. Mais en même temps, dans ma tête, j'étais comme moi, si j'ai une mère qui est comme ça, je tu sais, j'explose dans le sens que comme je me reste pas dans ce petit carcan-là, puis comme oui, maman, puis tu sais, sans un mot de plus, puis je vais être parfaite, je vais bien te respecter. Tu sais, dans ma tête, j'étais comme j'aurais été beaucoup plus explosive que. Mais en même temps, Mané, je pense qu'elle a 25 ans, là, à la fin, là, tu sais, c'est quand même une jeune
Femme,
adulte, là,
ouais,
femme,
c'est une
là.
jeune femme, ouais.
Tu sais, à 25 ans, vivre avec ses parents encore, puis être sous le joug de ses parents comme ça semble très loin de comme ce que nous, on est actuellement.
Ouais, mais ça, j'ai vraiment l'impression que c'est culturel dans le sens que, tu sais, c'est
Ben
une
oui.
fille qui n'est pas mariée, donc, tu sais, ses parents n'ont pas réussi à la marier. Il y a
Non,
ça
c'est
là
ça.
aussi qui est lourd dans le livre
Puis garder
là.
sa pureté.
C'est ça. Fait que là, elle est rendue 25 ans. Fait que là, c'est une vieille fille. Fait que tu sais, elle est plus mariable là. C'est difficile de lui trouver un
Ouais.
parti. Puis ouais, c'est ça. Fait que j'avais plus l'impression que c'était culturel, mais quand même, tu sais, moi en tant que comme Canadien, j'avais envie de dire lève-toi et marche, t'sais, vas-y, ça. Puis le pire, c'est qu'à un moment donné, sa mère lui donne sa liberté, t'sais, après qu'elle ait eu une relation sexuelle, donc ruiné son corps,
Oui.
elle lui dit ben va-t'en, là, va-t'en au reste, je m'en fous. T'sais, elle s'en fout complètement de sa fille.
Ouais.
Puis là, j'étais comme, mais là, tu l'as, la porte de sortie, là. Tu sais, vas-y. Mais en même temps, elle, dans sa tête, elle n'a nulle part où aller.
Ouais.
Fait que, ah, mon Dieu,
Puis
c'était
veut
dur.
pas, ça fait partie de son identité, tu sais. Comme elle est la fille de, si elle est plus la fille de, si elle est quoi, tu sais? Et comme, à qui elle a besoin de se prouver? À qui elle a besoin de plaire? Il y a plus rien si elle a plus sa mère. C'est un désastre d'un côté comme de l'autre, tu sais?
Ouais, c'est puis sais, on voit l'entonnoir là. On voit comme les solutions qui n'existent de moins en moins, puis on comprend, je veux faire attention à ce que je dis parce que le suicide n'est pas une solution, mais on comprend pourquoi ce personnage-là en vient à envisager cette porte de sortie-là, tu sais, parce que pour elle, dans sa tête, il n'y a aucune autre solution. C'est ça ou, tu sais, ou rien, en fait. Il n'y a plus rien devant elle, là. Maintenant, elle a gâché son corps, elle a gâché sa pureté. Sa mère, elle n'aura jamais l'attention qu'elle veut de sa mère, d'aucune façon. Fait que, tu sais. C'est ça. Je veux juste lire le message de Wave qui dit je vais peut-être le lire dans l'optique, ah ben, je ne suis pas une si mauvaise mère que ça, finalement. Je pense pas. Ben, il y en a des mauvaises mères dans le monde, là, mais si tu es une mère correcte comme tu l'es, je pense que c'est le genre de livre, effectivement, qui va te faire dire que tu es une très bonne mère. Tu es une très bonne mère.
Oui. Au-dessus de ça, c'est genre la belle-mère d'Aurore l'enfant martyr, là. T'sais, on n'est
Genre,
juste pas dans les sentiments corporels, là, mais
ah, mais
c'est
on est
beaucoup.
vraiment dans la torture psychologique, là. On est
Ouais.
vraiment là.
Ouais.
Il me semble que j'avais d'autres choses à dire. Ben moi, en fait, la partie où elle est morte, en fait, elle est morte tout le long, là, mais la partie où tu parlais, là, où son âme flotte, puis on comprend qu'elle a de moins en moins contact avec le monde des vivants. Moi, ça m'a rappelé la partie que j'ai aimée des Chants d'Achille. En fait, c'est la seule partie que. Moi, j'ai été pas mal déçu de ce livre-là, mais c'est la seule partie que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est à la fin. Puis, tu sais, je spoil pas. Je ne le divulgage pas, puisqu'on sait que T'sais, c'est la guerre de Troie, là. Tout le monde meurt à la fin. Mais, mais c'est ça, t'sais, à un moment donné, il y a Patrocle qui est décédé, puis il reste là, t'sais, puis il va continuer un peu de suivre l'histoire d'Ulysse, puis c'est ça, il y a cette espèce de relation-là, puis cette espèce de vision-là du monde des vivants alors que le personnage, alors que le narrateur est mort, que j'ai trouvé intéressant. Donc, c'est juste un petit parallèle que je voulais faire. Ceci étant dit, c'est un tout petit livre, puis c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. C'est pas vrai, je viens de me souvenir de l'autre truc que je voulais dire, c'est le titre. Parce que moi, au départ, on comprend que ça va parler du suicide, puis moi, ayant grandi dans une famille catholique, avec un père très catholique qui me traînait à l'église à tous les matins, j'ai fait « Ah, c'est l'ingratitude, c'est le suicide, tu sais, parce que tu ne ressens pas le... En fait, c'est une honte à Dieu quand tu es croyant, c'est une honte à Dieu que de te suicider parce que tu craches sur le cadeau que Dieu t'a fait, qu'est la vie, tu sais. Donc, je le voyais comme ça, le titre, mais finalement, on réalise que ben, tu sais, ça peut être, c'est peut-être un des aspects du livre, mais c'est vraiment plus par rapport à la mère, puis comment elle déçoit sa mère continuellement, tu sais.
Elle le nomme une couple de fois aussi, là, qu'elle est ingrate, puis tout ça. Donc, effectivement, là, il y a des liens, je pense, plus par rapport à la mère. C'est sûr qu'à la fin, là, sa mort, là, c'est comme si honteux puis tout ça, mais puis il y a comme le dilemme entre la mère et la grand-mère de quoi faire compte tenu que, ben, tu sais, en tout cas, c'est pas du vu gâcheur, mais ça s'est pas passé comme elle voulait que ça se passe.
C'est ça.
Donc, il y a quand même ce dilemme-là entre les deux femmes, même si techniquement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais moi, je le voyais beaucoup plus par rapport à la mère, parce que la mère. C'est vraiment, vraiment ce qu'elle lance tout au long, mais c'est vrai que les deux côtés, l'entièreté, ça en fait un bon titre.
Oui, en fait, c'est vraiment mon bagage à moi là, que j'ai amené là-dedans, dans cette interprétation-là. Puis c'est vrai, puis ça, c'est d'autant plus dur de dire que le titre, c'est l'ingratitude, parce que c'est ce que la mère lui fait ressentir injustement, mais c'est quand même ça le titre, tu sais. Fait qu'elle, elle se sent comme ça pour vrai. Ah, j'ai adoré ça. J'ai beaucoup aimé ça.
Poup, petite bulle de champagne.
Petite bulle de champagne. Peut-être, mon Dieu, qu'est-ce qui serait moins... Ben, en même temps, je dis ça, mais tu sais, Amélie Nothomb, des fois... Amélie Nothomb, je m'excuse, hein, j'ai passé là, 20 ans de ma vie à dire Amélie Nothomb, fait que je le dis mal à chaque fois. Mais c'est vrai qu'Amélie Nothomb a aussi des sujets quand même assez rough à l'occasion.
Ouais.
Fait que, ça peut quand même être une bulle de champagne. Je le prends comme ça.
On a une amie qui a lu Betty puis qui dit qu'elle était bien dans cet univers-là. 720 pages de torture.
Ouais.
Chacun a sa petite bulle de champagne.
Ouais, c'est ça.
Peu importe quelle couleur elle est.
C'est ça. On va le prendre comme ça. Si tu n'as plus rien à dire sur l'ingratitude, on peut passer aux suggestions culturelles. Qu'est-ce que tu as à nous recommander?
La semaine passée, ou le 2 semaines, je suis allée voir une comédie musicale qui se nomme Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys Fringants. Pour petite explication, moi, les Cowboys Fringants font partie de ma génération, mais je suis pas une pure de dure. Tu sais, je connais quelques chansons, je connais quelques paroles, mais tu sais, il n'y a pas de chansons spécifiques, il n'y a pas d'album que je pourrais te réciter de A à Z. Je ne suis pas une fervente, mais j'ai vu que ça passait dans la région. J'ai vu que ça passait au CNA, ce qui est surprenant, le Centre national des arts, parce que, tu sais, Cowboy Fringant, c'est très québécois, puis le Centre national des arts, il est à Ottawa, puis c'est comme, tu sais, tu t'habilles bien pour aller au CNA, tu sais, c'est très prestigieux. Fait que je me posais vraiment cette question-là de comme pourquoi c'était pas dans la salle à Gatineau, pourquoi c'était à Ottawa, au Centre national des arts. J'ai jamais vu ça. Des gangs de Québécois un peu bûcherons avec des chandails de Cowboys Fringants dans une belle petite salle où il y a parfois de l'opéra puis des ballets. Tu sais, c'est comme le clash, là. J'étais comme, je comprends pas. C'était vraiment super bon. Okay, la comédie musicale, sur plein d'aspects. Premièrement, le rôle principal, c'est Kevin Hull. Toi pis moi, toi, c'est toi qui m'as fait découvrir Kevin Hull dans Hair, mais encore une fois, dans Pub Royal, il y a un peu un personnage similaire, dans le sens que c'est comme, je sais, mais c'est comme ça, il va tellement bien, ce genre de gaillard sympathique qui pogne les nerfs assez rapidement, tu sais, c'est comme, il est tout le temps sur la ligne, puis il joue super bien, puis il y a certains moments qu'il chante, puis Carl, qui était le leader des Cowboys fringants, a vraiment un registre assez important, puis c'est pas facile pour tous les chanteurs, puis il l'a tellement bien, Kevin. J'étais en extase, encore une fois, sur ce comédien, acteur, chanteur. Je l'aime d'amour. Ça y allait comme un gant. C'était vraiment comme un super chef d'orchestre pour cette gang-là. Puis, ben forcément, il y avait d'autres chanteurs qui étaient super bons. Il y a Yvan Pedneau qui est là, qui fait comme un petit rôle de soutien. C'est un gars qui a été découvert à La Voix, puis qui était connu pour chanter du Queen. Fait qu'il y a du power, ce gars-là. Mm-hmm. Il chante l'Amérique qui pleure dans les bars, c'est moins facile, mais lorsqu'il ouvre la machine, tassez-vous. Fait que ça chante vraiment bien. Même si vous connaissez pas nécessairement toutes les chansons des Cowboys fringants, comme c'est toutes des chansons que, comme tu tapes du pied, tu tapes des mains, c'est comme t'embarques, là, tu sais, c'est super bon. Même si t'es connais pas nécessairement, c'est sûr que tu pourras pas t'empêcher de groover, là. Et le clou du spectacle. Ben, l'histoire est vraiment le fun, elle est vraiment ingénieuse. Comment ils ont réussi à, comme, intégrer toutes leurs chansons dans cette histoire-là? On est dans un pub, puis les gens peuvent pas sortir de ce pub-là. Il y a un gars qui va arriver, je me souviens plus de son nom. Mais, puis là, il va essayer de comprendre c'est qui ces gens-là, pourquoi lui, il est là. Il veut juste retourner, il y a eu un accident de char, puis il est pas capable, ils veulent pas le laisser partir. Kevin, il veut pas le laisser partir. Donc, mais le clou du spectacle, c'est qu'il y a des artistes de cirque. Et c'est là que j'ai compris pourquoi c'était au CNA, parce que c'est il y a des acrobaties incroyables. J'ai perdu mon souffle à un moment donné. Le gars, il s'est accroché par ses pieds sur la pole, puis il n'y avait pas de main, puis il a comme lâché jusqu'à la terre. Sa tête était à ça du sol. Ça fait tout. En tout cas, les acrobaties sont vraiment un plus. C'est vraiment un party sur ce scène-là. Le chant, musique, danse, acrobatie. Il n'y a personne qui peut sortir de là indifférent. J'avais envie de me reprendre des billets pour aller leur voir. Moi, j'étais comme, ça me tente. C'est pas réel. C'est pas... Tu sais, dans ma situation familiale, c'est peut-être pas comme idéal et proscrit, mais j'étais comme, c'est le genre de show que j'y retournerais parce que j'écouterais un petit peu la musique avant. Puis, tu sais, j'ai plus une idée où est-ce que ça s'en va, mais... Je recommande, si ça passe par chez vous, allez voir Pub Royal.
Ben, ils viennent à Montréal, il me semble, très bientôt. Donc, j'ai pas encore mon billet. Mais c'est ça. C'est clair que je vais avoir envie d'aller voir le beau Kevin.
Il est plus habillé que dans Hair, mais il est tout aussi bon.
C'est correct. Je vais le prendre comme il vient. Mais d'ailleurs, moi, cette année, j'ai vu le show Lily Saint-Cyr, la comédie musicale, mm-hmm. et il n'était pas dedans, à ma grande déception, mais c'est lui qui avait fait la musique. Donc, et c'était une excellente musique. C'est vraiment la force de ce show-là. C'était vraiment les tunes étaient vraiment très bonnes. Donc, voilà. Moi, ma recommandation culturelle, en fait, ça fait plusieurs semaines que je veux en parler, puis j'avais toujours des très bonnes recommandations culturelles d'actualité, donc j'avais pas eu l'occasion, mais c'est très niché, là. Mais vous le savez, je suis un très grand fan de Place Melrose, de Melrose mm-hmm. Place.
Ah.
Et il y a trois des actrices principales, c'est-à-dire Daphne Zuniga qui jouait Jo, Courtney Thorne-Smith qui jouait Allison, qui est là depuis le début d'ailleurs, les autres sont arrivés après, et aussi Laura Layton dans le rôle, qui est connue pour le rôle de Sydney, qui est mon personnage préféré. Donc, les trois sont là, et elles discutent, en fait, elles ont fait un podcast, c'est un Rewatch Podcast. Elle revisite chaque épisode et elle repart de chacune des épisodes avec, évidemment, avec à la fois les anecdotes de derrière le rideau, là, behind the scene, qu'on n'avait pas nécessairement accès parce qu'elles étaient là et elles l'ont vécu, mais aussi avec le regard d'aujourd'hui, ce qui est très intéressant parce que elles ont évolué en tant qu'être humain, tu sais, ça fait quand même 30 ans, ce show-là, là. Donc, mm-hmm. elles ont évolué et elles ont un regard moderne sur cette série-là qui date des années 90. Donc, des fois, à quelques occasions, même si c'est ma série préférée puis c'est la meilleure série de tous les temps, selon moi, c'est quand même yikes à l'occasion, tu sais. Il y a quand même des petits moments cringe, des petits trucs qu'on se dit, que j'aurais préféré que ce soit pas là. Par exemple, on sait que Place Melrose est un spin-off de la série Beverly Hills 90210. Et la façon qu'ils ont fait le spin-off, c'est que dans Beverly Hills, il y a le personnage de Kelly qui est au secondaire, qui rencontre Jake, en fait, mais en français c'était Jack. Jake qui a 25 ans. Et ils ont un flirt ensemble. Et ils font 3 épisodes dans Beverly Hills, puis après ça, Melrose Place commence, puis ils ont 3 épisodes avec Kelly de Beverly Hills. Puis c'est ça, là, il y a vraiment une espèce de « Ouh, t'es jeune, je ne devrais pas ». Puis il y a aussi l'aspect que Kelly, c'est une fille de riche, puis Jake est pauvre. Puis tu sais, il y a plusieurs choses là, qui se mettent dans sur leur route. Et une des choses qui a vraiment frappé les actrices et qui m'a vraiment frappé aussi, c'est qu'ils s'embrassent à un moment donné. On les voit se frencher, là, le gars de 25 ans et la fille de qui est, je me souviens pas quel âge le personnage a, mais elle est au secondaire, donc tu sais, elle n'est pas majeure.
Ouais.
Quand on sait que l'acteur qui faisait Jake, il jouait 25 ans, mais il avait 30 ans.
Mm-hmm.
Elle aussi était plus vieille, là, mais je me souviens pas quel âge elle avait. Je pense qu'elle était au moins majeure, mais tu sais, quand même.
Il y a un passage de même dans Dawson's Creek. Là. Moi, ça a été une de mes bonnes séries. Puis c'est un des premiers épisodes. Pacey, tu sais, au début du secondaire, là, techniquement, il joue peut-être un gars de 14-15 ans. L'acteur devait être un petit peu plus vieux, mais pas beaucoup plus. Puis à un moment donné, il y a comme une fréquentation avec sa prof de 40 ans. Puis ça passe, là, mais ça passe!
Sa prof de 40 ans!
Ah, oh, oui, non, c'est une madame, là, la madame, là.
Ah, oh, mon Dieu, c'est mon âge! C'est comme si je sortais avec un adolescent!
Ouais. Je sais, c'est... Ce serait fun, j'aimerais ça qu'ils fassent un podcast sur Dawson's Creek. Ça arrive pas d'arriver parce que... Ben, les 3 acteurs, il y a eu comme un genre de triangle amoureux. Tu sais, les 2 acteurs gars qui sont tombés en amour avec Katie Holmes. Joshua Jackson, ouais, il y a eu... Je pense que Joshua Jackson et Katie Holmes, ils ont sorti pendant une couple d'années ensemble. Puis, dans la vraie vie, il y avait comme des frictions à cause de James Vanderbeek qui avait des intérêts envers Katie Holmes. Fait que même dans la série, parfois, comme ils sont ensemble, mais parfois, il fallait qu'ils défassent les couples parce qu'ils n'étaient plus ensemble.
Oh, mon Dieu! Ouais. Il y a un peu de ça aussi dans Place Melrose. Là, on apprend que la comédienne qui jouait Allison et son love interest, son coloc, le gars qui jouait Billy, a dit à partir de l'épisode 2, on datait déjà. Là. Puis dans l'émission, c'est comme, tu sais, c'est will they, won't they. Là, on ne sait pas trop s'ils vont le faire ou pas. Puis. c'est ça, à la fin, juste avant la fin de la première saison, ils se sont laissés, mais pas leur personnage, par exemple. Fait que là, c'était un peu bizarre. Puis l'anecdote que ça m'amène à souligner, c'est que Courtney Thorne-Smith, elle a dit à Andrew Hsu, elle a dit, ben là, on n'est plus ensemble, là, fait que quand on va s'embrasser, pas la langue. Puis là, il était là, mais pourquoi? Mais on est professionnel, mais pas la langue. Fait que juste parce que je ne l'ai pas nommé, le podcast s'appelle Still the Place. Et donc, c'est disponible partout où vous écoutez vos podcasts, apparemment. Je l'écoute sur Spotify. Donc, ben merci pour ça. Je veux juste répondre à Wave qui nous dit « Merci beaucoup, vous m'avez donné envie de lire cette autrice d'origine chinoise qui m'intrigue depuis plusieurs années. » En fait, oui, il y a eu d'autres livres qu'elle a écrits pour lesquels elle a été très populaire, entre autres « Les lettres chinoises ». Mais moi, je la connaissais pas avant de lire « L'ingratitude ».
Moi non plus.
Donc, pour continuer ce projet-là, le prochain stop, c'est Annabelle de Marie Laberge. On ne fait pas de promesses, on ne sait pas quand exactement on va en parler, possiblement vers la fin du mois, mais on ne fait pas de promesses. On s'est dit que ça, c'était un projet qu'on faisait sans stress. On va voir quand ça va arriver. Mais si ça vous tente de le lire, vous serez à jour avec nous au moment où on fera le live. Et sinon, ça c'est assuré, à la fin du mois, on va parler de Hexa de Gabriel Filto-Shiba. Ça, c'est une recommandation de toi. Je l'ai pas commencé encore, j'ai bien hâte de commencer ça. On parle de ça à la fin du mois d'août et on va avoir, nous serons quelques-uns à parler de ça avec toi, probablement.
Oui, donc, certainement.
Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve donc à la fin du mois et bonne fin de soirée. Au revoir.